Vous écoutez On the Money de Fonds Dynamique, une série de balados qui vous donne accès à certains des gestionnaires de portefeuille les plus aguerris en gestion active, ainsi qu'à des leaders d'opinion dans le domaine de la finance. Lors de nos rencontres, nous posons à nos invités des questions pertinentes afin de connaître leur point de vue sur la conjoncture et de recueillir leurs conseils sur la manière de composer avec le contexte actuel. Bienvenue à notre balado On the Money. Mon nom est Éric Allé, je suis vice-président régional Est du Canada pour Fonds Dynamique et j'anime la version française de la série. Aujourd'hui, nous allons regarder à ce qui s'est passé en 2023 ainsi que ce qui nous réserve potentiellement 2024. Nous sommes accompagnés de M. David Di Pastella. David possède plus de 20 ans d'expérience dans les conseils aux clients et la gestion d'actifs institutionnels. Au cours des 10 dernières années, David a travaillé avec plus de 500 conseillers financiers, les aidant à systématiser leur processus de placement. Il possède par ailleurs une connaissance approfondie de la composition des portefeuilles de placement ainsi que les investissements spécialisés. M. Di Pastella détient les titres suivants CFA, CFD, CAIA, CIM et FCSI. Bonjour, David.
Bonjour, Éric.
Donc, ceci étant dit, David, est-ce que tu pourrais nous faire un sommaire de ce qui est arrivé en 2023 au niveau des marchés financiers?
C'est une question intéressante. Je trouve que si nous regardons 2022 à 2023, je trouve que ces années-là, puis là, on est en début de 2024, moi, j'appelle ça des années qui créent des carrières parce qu'on a tout vu. On a vu un marché qui était en fou. On a vu un marché où les taux d'intérêt ont monté d'une façon importante. Mais qu'est-ce qui est intéressant en 2023, c'est que c'était l'inverse de 2022. Les actions et les obligations en 2022, ils ont perdu, ils ont eu un rendement négatif. Mais en 2023, qu'est-ce qu'on a vu, c'est le marché américain, justement, a monté d'une façon importante. A monté pas mal, 22-23%. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que quand nous regardons le S&P 500, qui est comme un indice de qu'est-ce qui se passe économiquement en Amérique du Nord, on voit que la performance est différente quand on enlève les 7 plus grosses compagnies qu'on appelle des compagnies technologiques. Donc, quand nous regardons le vrai indice de S&P 500, on voit que les 493 autres compagnies n'ont pas si bien performé. Donc, on a eu ces 7 compagnies-là qui ont monté d'une façon importante, mais le reste des 493 compagnies dans le S&P 500, l'indice aux États-Unis, a juste fait dans les environs de 5%. Donc, c'était quand même, la performance n'est pas aussi élevée que le monde pense. Donc, c'est un petit peu ça qui est arrivé l'année passée. On a vu un intérêt dans l'intelligence artificielle qui a monté quand même ces 7 grandes compagnies-là. On a vu quand même beaucoup de monde qui ont parlé de c'est quoi les conséquences des affaires comme ChatGPT. On a vu des compagnies qui supportent ces genres de plateformes-là monter. Donc, un petit peu 2023, je te dirais, c'est l'année technologique, c'est l'année où l'intelligence artificielle a fait monter les marchés.
Donc, David, tu mentionnais la performance, un 22-23% au niveau de l'indice de manière générale, surtout propulsé par cette compagnie. Si on regarde un petit peu plus large, puis on regarde les autres catégories d'actifs, comment ils ont performé par rapport au marché US?
On voit que avec le taux d'intérêt, si nous parlons un petit peu des obligations, on s'entend qu'on a tous vu les taux d'intérêt qui ont monté d'une façon importante. On a vu que les taux d'intérêt ont comme été suspendus, ils ont atteint un genre d'apogée. Puis on a vu évidemment que quand ça a commencé à arriver, à la fin de 2023, à partir de octobre, novembre, on a vu que les obligations ont monté d'une façon importante, des obligations très conservateurs ont monté dans les environs de 6 à 8. Donc, qu'est-ce que le marché nous a dit pour la classe d'actifs des obligations? C'est que le marché des obligations pense que les banques centrales vont diminuer les taux d'intérêt ou qu'on est à la fin de la phase d'augmentation des taux. Au niveau international, on voit que la performance était moins élevée, évidemment, que les États-Unis. On voit qu'il y a quand même beaucoup de stocks qui transigent à des multiples très bas. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas trop chers, mais il y a quand même beaucoup d'incertitudes au niveau de l'Angleterre, surtout la Chine. Donc, on a vu ces classes d'actifs-là qui ont moins performé. Donc, vraiment, les États-Unis étaient la classe d'actifs importante. C'était vraiment ça qui a fait travailler les rendements aux États-Unis. Puis au Canada, on a eu pas une si haute année non plus avec le niveau de dette des consommateurs et les banques qui s'inquiètent un petit peu.
Je vais faire un petit peu de pied là-dessus. Tu mentionnais 23 qui était plus ou moins l'inverse de 22. Si je te demanderais de regarder dans ta boule de cristal et puis on parle de maintenant 2024, Est-ce que tu vois 24 être une continuité de 2023? Est-ce que ça va ressembler un petit peu plus à 2022? Je vais rajouter une petite chose. Tu as mentionné les taux qui avaient peut-être atteint un sommet. Ça va avoir des incidences sur les obligations. Ça peut avoir des incidences sur certaines actions qui sont plus sensibles par rapport au mouvement de taux d'intérêt. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire pour 2024?
Je vais remettre ça en perspective. D'un, j'aimerais ça avoir une bulle de cristal. Je ne travaillerai plus. Mais ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est de regarder des indicateurs qui nous donnent une chance d'avoir une bonne décision. On va regarder les risques et les opportunités. Si nous regardons au niveau de risque, on voit que pas mal tout le monde dans le marché pense que les banques centrales vont diminuer leur taux d'intérêt. La fin, c'est que quand nous regardons les taux d'intérêt, en ce moment, on s'entend que tout le monde pense que ça va être 3 ou 4 coupures dans les environs de 1 % à 1,5. L'affaire, c'est que si nous regardons les indices en ce moment, les emplois sont très hauts, très élevés. L'inflation n'est pas si bas qu'on pense. Puis, il ne faut pas oublier que si nous répétons la même situation que les années 70, ça se peut qu'on va avoir deux autres crises d'inflation très élevées. Donc, quand nous regardons ça, ça se peut bien que les banques centrales ne vont pas diminuer leur taux d'intérêt aussi vite qu'on pense. Donc, le risque, c'est que le marché a déjà pricer cet événement-là. Si ça n'arrive pas, ben, tu peux avoir des baisses dans tes obligations puis on commence à le voir. Ça, c'est un risque que je pense qui est important. Un autre risque, je te dirais, c'est qu'il y a beaucoup d'experts qui parlent de l'enjeu de l'intelligence artificielle et comme tous les cycles des affaires intéressants, on voit qu'une fois quelque chose devient très populaire, ben, il y a toujours un démon un petit peu après ça. Ça veut dire qu'éventuellement, on va voir que les médias, les nouvelles vont tourner négatif vers l'intelligence artificielle. Donc, ça peut ennuyer dans les rendements. Je pense que ça va être important de faire affaire avec des gestionnaires ou de choisir des stocks qui ont des vrais bénéfices, qui ont des vraies histoires, qui font l'argent dans ce secteur-là. Donc, ça, c'est des risques un petit peu. Il y en a d'autres aussi, là, mais on va parler des opportunités. J'avais mentionné que le S&P 500 a monté d'une façon importante. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est qu'on commence à voir une participation plus large des compagnies qui est très bon pour le marché. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de compagnies qui montent en même temps que le S&P 500. Ils ne sont pas si chers que les 7 compagnies que j'avais mentionnées comme les grandes compagnies technologiques. Donc, dans la bulle cristal, j'ai aucune idée qu'est-ce qui va se passer, mais les années d'élection aux États-Unis se trouvent à être des années qui ont un rendement entre 9 et 13 %. Donc, statistiquement, on va faire l'argent. On ne sait pas si ça va être vrai, mais statistiquement, c'est de notre côté. Puis on voit qu'il y a une participation importante dans le marché. Ça, c'est important. Donc, il y a une opportunité de faire de l'argent. Au niveau Canada, on sait que les banques ont peur de ce qui se passe au niveau de l'endettement des citoyens. On est le pays le plus endetté au monde, une des pays les plus endettés. Puis il ne faut pas oublier, quand on a beaucoup de dettes puis on ne paye pas nos dettes, bien, ça ennuie dans les bénéfices des banques. Ça peut faire mal au Canada, mais ça peut être une opportunité aussi dans certaines compagnies qui sont pas chères de ce temps-ci.
Donc, David, tu nous parlais d'inflation, taux d'emploi. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu des scénarios économiques que tu peux entrevoir, que ce soit bon ou mauvais. On sait qu'un scénario économique ne va pas nécessairement en ligne avec le marché boursier. Donc, tu sais, l'économie peut aller peut-être un peu moins bien, le marché boursier va très bien, ou le marché boursier va moins bien, les situations économiques semblent revenir. Donc, c'est pas parce qu'on identifie une bonne compagnie qu'on peut nécessairement payer le bon prix. Donc, s'il serait possible pour toi de nous faire peut-être un éventail de qu'est-ce qu'on pourrait voir en 2024 en termes de scénario économique bon ou mauvais?
C'est une grande question. La question n'est pas facile, évidemment. Des opinions, c'est comme des oreilles, tout le monde a des opinions. Je te dirais, il ne faut pas oublier que le marché des actions est souvent 6 à 18 mois en avance de l'économie. Okay? Donc, quand nous regardons le Canada en ce moment, on voit que le Canada a monté un petit peu. Mais pas autant que les États-Unis. Pourquoi? Parce que le marché est en train de regarder les bénéfices des compagnies. Puis au Canada, on a pas mal 2 ou 3 secteurs qui sont des matériaux, genre orifère, de l'huile, etc., et des services financiers. C'est vraiment 2 à 3 industries au Canada. Si nous prévoyons au Canada que les bénéfices vont souffrir, un, pour moins d'amende des matériaux, qui n'est pas nécessairement le cas, l'enjeu au Canada, c'est les banques. Donc, je ne sais pas si tu le sais, mais la dette des ménages canadiens, c'est à 182 % du revenu disponible. Puis c'est 75 % c'est dans la dette hypothécaire. Donc, le contexte, si nous regardons c'est quoi les scénarios, on peut avoir, si nous avons une baisse des taux d'intérêt parce que les hypothèques sont directement reliées avec les taux d'intérêt. Si on a une baisse de taux d'intérêt, ça se peut qu'au Canada, une bonne baisse attendue, ça se peut qu'au Canada, on va avoir les bénéfices des banques qui vont monter parce qu'ils vont être moins conservateurs. Puis ça se peut qu'on va avoir des bons rendements. Tout ça peut prendre 12 à 18 mois. En ce moment, le marché est en train de dire ben, peut-être, peut-être pas. Donc, il n'est pas sûr. Aux États-Unis, similaire, mais on a un marché qui est beaucoup plus diversifié aux États-Unis dans les secteurs. Donc, ça veut dire que si nous avons des secteurs différents, on peut avoir, aux États-Unis, on a quand même une croissance supérieure au Canada. Donc, si ça continue, le marché va continuer à monter. Puis comme j'ai mentionné, les scénarios le plus probable, c'est que le marché est positif, surtout dans une année où il y a beaucoup de promesses par les deux candidats au niveau président. Donc, s'il y a une choc d'inflation, ça va faire mal au marché. Toutes choses constantes, statistiquement, c'est ça qui va arriver. Donc, parce que le marché va dire, les taux d'intérêt ne descendront pas et ça va coûter plus cher de dette partout pour le consommateur, pour les compagnies. Donc, c'est tout ça pour dire, l'affaire qu'il faut vraiment suivre, c'est quoi les indicateurs que les banques centrales regardent? Qui, le plus important, c'est l'inflation. Ça, ils regardent d'autres choses. Mais si l'inflation monte, le marché des actions peut avoir des chocs. Je te dirais, il ne faut pas oublier que des marchés d'actions, surtout aux États-Unis, en moyenne, il y a une correction de 13 % à tous les ans. Donc, si tu me demandes, vas-tu avoir une correction statistiquement, je te dirais oui. 98 % du temps, le marché a eu une correction pendant l'année. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas finir positif. Mais il faut s'entendre que si nous regardons un horizon un peu plus long terme, si tu as un horizon de 3 ans et plus, je te dirais des opportunités d'investissement sont là quand le marché descend puis quand le marché panique un petit peu parce que le marché n'est jamais en équilibre. Il est toujours d'une étape à l'autre puis c'est toujours la trajectoire des deux.
David, je vais revenir sur un des points que tu as mentionné. Tu parlais de baisse potentielle de taux d'intérêt. Ça pourrait avoir des impacts sur le côté obligataire d'un portefeuille. Donc, l'investisseur québécois moyen va avoir un portefeuille plus ou moins équilibré. Donc, 50 % actions, 50 % revenus fixes. Peut-être qu'on va 60-40 ou 40-60 d'un bord ou de l'autre. Mais il y a une bonne exposition du côté obligation. Donc, qu'est-ce qui pourrait être les risques et opportunités du côté obligataire pour 2024?
On peut en avoir plusieurs risques. Je te dirais, si nous regardons la courbe de risque, ça veut dire que les gouvernementales, quand on prête l'argent au gouvernement, c'est les moins à risque. Quand on prête l'argent à une compagnie privée, c'est les plus à risque. Je te dirais, on va regarder ça dans deux phases. La phase, quand on emprunte l'argent à une compagnie privée, je te dirais, il y a un risque assez élevé pour le risque de la dette privée. On commence à voir des compagnies immobilières qui commencent à avoir un petit peu étranglées par la hausse des taux d'intérêt. Au niveau commercial, les taux d'intérêt sont beaucoup plus supérieurs, sont beaucoup plus élevés. Donc, ce risque-là, si on est plus dans la courbe de risque dette privée, même dans ce qu'on appelle des fois le rendement élevé, peut être un risque parce que si les taux d'intérêt ne descendent pas, ben, ces compagnies-là, même s'ils descendent un petit peu, à ces niveaux-là, ça peut être un enjeu pour certaines compagnies. Si nous regardons l'autre côté de risque pour les obligations, c'est ce qu'on appelle la durée, qui est la sensibilité aux taux d'intérêt. Une leçon rapide, quand les taux d'intérêt montent, le prix de ton obligation descend. Ça veut dire que tu perds l'argent. Okay? La raison, c'est que si on a un coupon qui nous donne 3 % mais les taux d'intérêt sont à 5, ben, ça veut dire que mon obligation qui donne 3 % elle vaut beaucoup moins. Ça revient au point que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est que si on a de l'inflation puis les taux d'intérêt ne descendent pas ou même qui montent, ça peut surprendre beaucoup de monde, qui est possible, probablement que non. On va avoir une chute des obligations encore, possiblement comme 2022, peut-être pas autant, mais ça, c'est une possibilité. De l'autre côté, il y a 3 scénarios dans les taux d'intérêt. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est que la Banque centrale ne descend pas autant qu'on pense. Ça peut aussi amener une perte dans les obligations qui ont beaucoup de sensibilité, genre des obligations de 20-30 ans. Parce que ces obligations-là, le marché s'attaque, ils vont monter parce que tout le monde pense que les taux d'intérêt vont descendre, mais les marchés fonctionnent en attente. Donc, c'est toujours les attentes de ce qui va se passer, pas la réalité. C'est bizarre. Puis le troisième scénario, c'est que les banques centrales descendent les taux d'intérêt tels que prévu et que les obligations font l'argent. Combien, je ne suis pas sûr, ça dépend où tu es. C'est sûr que les obligations qui sont 20-30 ans vont faire plus d'argent que les obligations à court terme, toutes choses constantes. Donc, ça, c'est les scénarios. Pour résumer, tu as les 3 scénarios de taux d'intérêt. 1, les taux d'intérêt montent, qui est possible. Les taux d'intérêt restent où ils sont ou c'est plus long avant qu'ils descendent les taux d'intérêt. Le troisième, c'est qu'ils descendent les taux d'intérêt aux attentes que tout le monde pensait. Tu fais l'argent dans les obligations, surtout dans les obligations à long terme. L'autre scénario, c'est qui n'est pas exclusif, c'est que la dette privée, qui est le plus à risque dans la courbe de risque, ces compagnies-là commencent à faire faillite ou commencent à avoir des problèmes financiers qu'on voit en ce moment, surtout dans l'immobilier commercial. Ça, c'est des risques au niveau d'obligations. Donc, c'est important je te dirais, ce n'est pas facile de trouver où y aller dans les obligations. Je te dirais d'être conservateur dans le noyau de notre revenu fixe. Puis, si tu veux jouer certaines affaires pour faire un petit peu plus d'argent, bien, peut-être minimiser cette partie-là parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Ce n'est pas aussi simple de faire de l'argent dans les obligations.
Tu en as glissé un mot tout à l'heure, puis si on regarde un petit peu, on regarde les nouvelles à la télévision, c'est dur de ne pas entendre, on parle des niveaux de dette très élevés des ménages canadiens. On entend à perpétuité la problématique du logement au Canada. On peut aussi entendre l'exposition des banques ou du côté immobilier commercial, la dette commerciale. Donc, je te lance beaucoup de choses, mais j'étais curieux de savoir qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit?
Qu'est-ce qui m'empêche de dormir? Je te dirais, il y a une couple de choses. Les banques canadiennes, si nous regardons la façon qu'une banque fonctionne, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont prendre un dollar de quelqu'un, genre t'investis dans des CPG, puis ils vont mettre ça sur la rue pour emprunter au monde jusqu'à 30 fois. Donc, ça veut dire, en réalité, puis je simplifie un système qui est très complexe pour que le monde comprenne. Si nous regardons 1 divisé par 30 fois, ça veut dire 3 %. OK? Toutes choses constantes. Puis ça, cette remarque-là vient d'un de nos gestionnaires de portefeuille. Si nous avons 3 % des obligations de la dette que les banques empruntent fait faillite, bien, les banques canadiennes vont se faire ramasser. Toutes choses constantes. Donc, ça m'inquiète un petit peu. C'est un phénomène qui, probabilité est assez faible parce que les banques sont quand même suivies, mais c'est ça qui est arrivé un petit peu aux États-Unis en 2008. On n'est pas dans cette situation-là, mais c'est possible. L'autre affaire qui m'inquiète, et de plus en plus, c'est une cyber-attack. La simple et bonne raison, c'est qu'on augmente les chances que l'intelligence artificielle, ça c'est plus un risque géopolitique, puis c'est le risque par certains experts, il y a des experts qui regardent des risques, c'est un risque qui a une probabilité assez élevée, puis un impact assez élevé. Ça me fait peur un petit peu, de dire que demain matin, on pourrait avoir une attaque qui est assez importante au niveau gouvernemental ou peu importe, que ça bloque quelque chose. Au niveau du marché, le marché chuterait. Évidemment, toutes ces essais d'affaires-là font peur. Tu ne peux pas faire grand-chose pour te protéger contre une affaire de même. Mais, toute chose constante, il y a une opportunité d'investir dans des compagnies qui bénéficient de ces affaires-là. Exemple, des compagnies de sécurité, des compagnies de blockchain, ces genres de compagnies-là ont une expertise dans ça. Puis, la troisième affaire qui me fait peur un petit peu, c'est la dette commerciale au niveau immobilier. Je pense qu'on ne sait pas c'est quoi l'impact encore des taux d'intérêt qui ont monté pour ces compagnies-là, pour l'immobilier. J'en connais plusieurs qui sont dans l'immobilier, puis les projets sont de moins en moins payants. Quand tu as un taux d'intérêt à 4 % que tu as prévu en 2021 pour commencer en 2024, puis là, les taux d'intérêt sont à 7 à 8 pour le commercial, puis l'immobilier, ta valeur présente, la valeur du projet est beaucoup moins. Donc, ça peut... Donc, à ce moment-là, il ne faut pas oublier ces genres de compagnies-là, ils ont beaucoup de staff, ils ont beaucoup d'employés. Ça se peut qu'on va voir des défauts dans ces compagnies-là, puis défaut sur la dette. Puis ces dettes-là sont entretenues par des caisses de retraite souvent. Donc, les trois risques que je te dirais qui me font peur un petit peu, c'est les banques canadiennes un petit peu, de voir, j'espère que... Puis c'est pas nécessairement les banques, mais c'est plus le consommateur puis comment ils réagissent avec sa dette. Deux, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau attaque en ligne, ces affaires-là. Puis le troisième, c'est la dette commerciale dans l'immobilier surtout, parce que c'est des gros montants. Ça me fait peur un petit peu de c'est quoi les impacts potentiels. Puis évidemment, ben, on veut se protéger un petit peu, mais tu sais, il y a des affaires qu'on ne pourrait pas se protéger.
David, tu as mentionné un des risques que tu vois, une des préoccupations en Banque canadienne, leur exposition. Tu as aussi fait référence aux troubles que les banques ont eus en 2008-2009. Je vais te ramener dans un passé pas très loin, juste l'année passée au sud de la frontière, quelques banques régionales qui ont fait défaut à cause d'une hausse des taux d'intérêt. Et puis peut-être un misalignement au niveau de leurs investissements. Est-ce que tu penses que la hausse des taux d'intérêt qu'on a eu son plein effet sur le secteur?
C'est très difficile de savoir si les effets, il y en a qui disent, il y a des gestionnaires chez nous qui disent que ça prend 18 mois avant de voir. Donc là, on est en train de voir de qu'est-ce qui s'est passé en début de 2022, peut-être. Pour être bien honnête, on n'est pas sûr. La seule affaire qu'on pourrait faire, c'est de voir c'est quoi les indicateurs. Mais par exemple, il ne faut pas oublier qu'en 2008, il y avait deux contextes qui étaient importants. Surtout si on parle de 2008, relié avec ce qui s'est passé avec les banques aux États-Unis, les banques régionaux. Bien, c'est le risque systématique. Donc, ça, c'est un plus gros risque. C'est parce que quand tu as une banque qui fait faillite, puis c'est pas le cas au Canada, puis il faut pas faire peur au monde, mais si on a une banque qui fait faillite, l'affaire la plus importante, c'est qu'on coupe ou on isole cette banque-là avant qu'il y ait un risque systématique. Parce qu'il ne faut pas oublier cette banque-là fait affaire avec une autre banque. Ils empruntent à une autre banque, ils s'empruntent entre eux, puis une affecte l'autre. Donc, si on est capable de tout de suite mettre une barrière, un petit peu le traitement, malheureusement, quand on est malade, là, on a un traitement, surtout au niveau cancer, puis c'est le même principe. Si on veut isoler, puis on veut enlever. Ça, c'est le plus gros risque qu'il faut faire attention. On n'est pas rendu là. Qu'est-ce qui va arriver dans 12 mois? Bien, les effets des taux d'intérêt peuvent prendre 18 mois, mais les effets positifs des baisses des taux peuvent être beaucoup plus rapides. Donc, il peut y avoir une cancellation entre les deux aussi. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que le monde va commencer à dépenser beaucoup plus rapidement que les faits. Donc, ça veut dire que les bénéfices vont monter beaucoup plus vite que l'impact des taux d'intérêt dans 18 mois, 12 mois. Donc, j'espère que ça répond à ta question.
Merci, David. Pour conclure la séance d'aujourd'hui, j'aurais une dernière question pour toi. On va revenir à la construction de portefeuille. On parlait du portefeuille équilibré, portefeuille typique 50-50. Si on parle de portefeuille 60-40, il y avait plusieurs campagnes marketing, il y avait des visions dans le marché. On parlait de potentiellement la mort du portefeuille 60-40. Et ça, dû au taux d'intérêt qui était plus élevé et des rendements attrayants du côté CPG et obligataire. Selon toi, est-ce que tu penses qu'il est toujours intéressant d'ajouter une portion de placement alternatif à l'intérieur d'un portefeuille équilibré?
Je dirais la réponse courte, c'est oui, pour deux raisons. Un, la corrélation, puis deux, le revenu, puis je vais expliquer. La corrélation, il ne faut pas oublier, même si on est diversifié Canada, US, international, l'Europe, la Chine, peu importe, les marchés émergents, quand il y a des mauvaises nouvelles, les marchés sont connectés mondialement. Ça veut dire que tu as une probabilité assez élevée que tes actions vont toutes descendre en même temps, peu importe où tu es. Donc, tu n'es pas vraiment diversifié dans les actions parce que ils vont descendre différemment, mais il y a de fortes chances que s'il y a des mauvaises nouvelles, ils descendent en même temps. D'un. De l'autre côté, les obligations, c'est la même affaire. Si tu as des obligations, toutes les obligations sont sensibles au taux d'intérêt. Donc, ça veut dire une obligation gouvernementale puis une obligation commerciale, ils ont les mêmes niveaux, pas le même niveau de risque, mais ils vont sûrement descendre en même temps s'il y a une hausse de taux d'intérêt ou des attentes différentes des baisses. Tout ça pour dire, donc ça c'est la première raison, quand on ajoute une alternative à un portefeuille, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on diminue cette corrélation-là. On enlève un petit peu de corrélation pour qu'une partie du portefeuille ne réagisse pas ni comme des actions et ni comme des obligations. Parce que tu peux être dans une situation, puis on a vu en 2022, où les actions et les obligations descendent en même temps, même avec des taux d'intérêt à 5 %. Dans ce cas-là, tu perds l'argent peu importe où tu es. Donc, pour la raison de corrélation, ça veut dire la façon que les affaires bougent en même temps, je te dirais les alternatives sont assez importantes d'avoir dans un portefeuille. Je te dirais, pour avoir un impact important, pour avoir un impact dans un portefeuille, minimum 10-15 % selon toutes les recherches qu'on voit pour avoir un impact significatif. De l'autre côté, le revenu. Si nous regardons des obligations d'investissement et nous regardons des fonds, nous regardons des actions, en général, pour avoir un revenu de ces investissements-là de plus que 4,5 %, c'est très difficile en moyenne. Donc, je te dirais pour du monde qui recherche du revenu, il faudrait regarder à des classes d'actifs différentes, exemple des stratégies d'options, des stratégies de fonds de couverture. Ces stratégies-là nous permettent d'aller chercher beaucoup plus de revenus. Exemple, on peut bouger notre courbe de revenus de 4,5 à 6 avec des alternatives. Donc, pour les deux raisons, je te dirais, même avec les obligations qui nous donnent un coupon qui est assez intéressant, je te dirais, pour la raison de corrélation, les affaires bougent en même temps, les actions et les revenus fixes. Mais en même temps, pour la deuxième raison, c'est du revenu. Si tu recherches du revenu plus que 4,5 %, 5 %, tu veux, exemple, 60 000 $ sur 1 million par année, ben, il faut vraiment considérer des classes d'actifs différentes.
Merci beaucoup, David. Comme d'habitude, d'avoir partagé avec nous tes perspectives, tes opinions. Je te souhaite bonne journée et à bientôt. Vous venez juste d'écouter un autre balado On the Money de Fonds Dynamique. En savoir davantage sur Dynamique et sa gamme complète de fonds, communiquez avec votre conseiller financier ou visitez notre site web à dynamique.ca.
Ce document audio a été préparé par Gestion d'actifs 1832 SEC aux fins d'information seulement. Les points de vue exprimés au sujet d'un placement, d'une économie, d'une industrie ou d'un secteur du marché en particulier ne doivent pas être considérés comme une recommandation d'achat ou de vente, ni comme des conseils en placement. Ils ne dénotent par ailleurs aucune intention d'achat ou de vente des gestionnaires de gestion d'actifs 1832 SEC. Ces points de vue peuvent changer à tout moment, selon l'évolution des marchés et d'autres facteurs. Nous déclinons toute responsabilité quant à la mise à jour du présent contenu. Ce document audio renferme des renseignements ou des données provenant de sources externes qui sont réputées fiables et exactes en date de la publication. Mais Gestion d'actifs 1832 SEC ne peut en garantir la fiabilité ni l'exactitude. Aucune information contenue au présent ne constitue une promesse ou une représentation de l'avenir ni ne doit être considérée comme telle. Un placement dans un fonds commun peut entraîner des commissions sur opération, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements totaux historiques composés chaque année. Ils incluent la variation de la valeur des parts, actions et le réinvestissement de toutes les distributions, toutes les dividendes. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres qui aurait pour effet de réduire le rendement. Les titres de fonds communs ne sont pas garantis. Leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.